Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Le désir de sainteté habite chaque chrétien, mais il est parfois, voire souvent, on peut le dire, étouffé par les préoccupations du quotidien et la lourdeur de l'existence. L'invité de Radio Présence aujourd'hui propose de retrouver le goût de la conversion personnelle. Le cœur plein de Dieu, c'est le titre du tout dernier ouvrage du frère Marie-Olivier Guillou, dominicain de la province de Toulouse, actuellement au couvent de Marseille. Et il est donc en ligne avec nous. Bonjour frère Marie-Olivier.
Bonjour Isabelle.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors on va commencer tout de suite parce que votre livre est d'une richesse incroyable. Et évidemment, on n'aura pas le temps de tout voir. Mais je voudrais qu'on parle déjà de cet appel à la conversion que vous lancez dans votre ouvrage. On peut dire qu'il tombe vraiment à point nommé parce que nous venons de célébrer la Pentecôte. Est-ce que l'Esprit Saint n'y est pas pour quelque chose dans ce désir de conversion?
Oui, évidemment. C'est lui qui est à l'œuvre, hein. L'artiste qui façonne en nous le saint s'appelle l'Esprit Saint, et c'est lui qui met en nous d'abord cette insatisfaction. Il nous fait sentir que nous sommes faits davantage pour que la médiocrité spirituelle. Et donc la conversion n'est pas d'abord un effort moral, mais l'œuvre de Dieu dans mon âme. C'est ce que le Père Vessière appelle avec un joli mot l'œuvre du saint amour. Puisque l'Esprit de Dieu est l'œuvre de la vérité, est l'Esprit, pardon, de la vérité et l'Esprit de l'amour.
D'accord. Alors, puisque vous parlez du Père Vessière, j'aimerais bien que vous précisiez quand même en quelques mots qui il est. C'est un dominicain, mais un certain nombre de nos auditeurs ne le connaissent pas encore.
Oui, c'est vrai, il est très connu des cercles dominicains, à la fois des frères, mais aussi des amis des dominicains. C'est un frère prêcheur donc qui est mort en 1940. Il appartient à la province de Toulouse. Et sa particularité est qu'il a mal commencé sa vie religieuse. Parce qu'il a fait une sorte d'anémie cérébrale. Aujourd'hui, on dirait un burn-out. Et donc, il a tout perdu. Il a failli ne pas s'engager dans l'ordre. On le refusait non seulement à la profession solennelle, mais aussi aux ordres. Finalement, il était ordonné in extremis, mais comme il était tellement faible, incapable de prêcher ou de confesser, on l'a envoyé à la Sainte-Baume, petit sanctuaire perdu dans le Var, là, qui est devenu maintenant un grand sanctuaire que tout le monde connaît parce que c'est le sanctuaire de Marie-Madeleine. Et il a commencé sa vie dans la solitude, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pèlerinage, avec ce désir de consentir à son sort et d'entrer justement dans la sainteté que Dieu voulait pour lui.
Alors merci pour ces précisions frère Marie-Olivier Guillou. Le Père Vessière, vous le citez beaucoup hein, dans votre livre et on aura l'occasion justement de retrouver un petit peu quelques-uns de ses écrits. Vous avez intitulé votre livre « Le cœur plein de Dieu ». Qu'est-ce que ça signifie pour vous ce cœur plein de Dieu ?
Un cœur plein de Dieu, c'est pas un cœur qui ressent beaucoup, mais un cœur qui est tout donné à Dieu. Un cœur habité par la présence de Dieu. Un cœur unifié, un cœur disponible à la volonté de Dieu. Un cœur qui aime en acte et plus Dieu que tout le monde, en quelque sorte.
Oui, c'est un sacré programme, dites donc. Hein.
Bah, c'est le programme de la sainteté.
Et c'est le programme de la sainteté.
Laisser toute la place au Seigneur dans notre vie.
Voilà, c'est ça. Et justement, pour laisser au Seigneur toute la place dans notre vie, vous proposez dans cet ouvrage « Le cœur plein de Dieu » de suivre en fait une retraite. Quelles en sont les étapes, frère Marie-Olivier ?
Alors, je vais vous citer un petit texte du Père Vessière qui donne un peu la trame du livre, en fait. Je cite le Père Vessière en exergue de ce livre en disant « voilà. La solitude, le silence, le recueillement. Fixez-vous dans cette atmosphère, écrit le Père Vessière à un de ses fils spirituels. Fixez-vous dans cette atmosphère, conservez-la jalousement, c'est là que Dieu parle et nous visite. » Donc, première étape, c'est ce retour aux sources intérieures, là où Dieu nous attend, dans l'intimité de notre cœur. Premièrement. Deuxièmement, je cite encore le Père Vessière, « et la foi vive en l'amour divin qui nous enveloppe et nous étreint. » Que tout intérieurement et extérieurement nous apporte. Donc, deuxièmement, se laisser aimer par Dieu. C'est la deuxième étape pour lui, ce qu'il appelle l'œuvre du Saint-Amour. Mmh. Et puis après, on continue, troisième étape, la confiance sans réserve en cet amour, qui veut notre bien. Et le couronnement de la conversion, il l'appelle l'abandon. Et finalement, l'abandon à tout ce qui peut arriver pendant ces jours bénis de retraite. Laissez-vous faire, laissez-vous aimer. Voilà l'essentiel. Alors ensuite, évidemment, j'ai un peu développé ce parcours de conversion. Mais vraiment, les grands axes, c'est l'intériorité, les retrouvailles avec Dieu, justement, dans le cœur profond, l'œuvre de l'amour que Dieu fait dans ma vie, le désir ensuite de répondre à cet amour, c'est la soif d'aimer Jésus, qui nous a tant aimés, pour arriver à l'union des volontés, un seul cœur, un seul esprit avec Dieu, et trouver enfin, au bout du compte, eh bien, la grande liberté intérieure dans un abandon de tous les instants, comme un enfant entre les bras de son père. C'est le terme même de toute conversion chrétienne.
Oui. Vous redites dans cet ouvrage l'importance de la vie intérieure. Pourquoi elle est vitale et sur quoi elle se base ?
Eh bien, la vie intérieure est vitale parce que Dieu nous parle dans le silence. Dans la Bible, à chaque fois que Dieu rejoint quelqu'un, c'est toujours dans le désert ou sur la montagne. Jésus lui-même quittait souvent la plaine et l'agitation de la foule, ses disciples eux-mêmes, pour aller à l'écart prier le Père. Et s'il n'y a pas de vie intérieure, de solitude avec Dieu, une solitude où dans laquelle Jésus imprime sa relation avec son Père en moi, eh bien, il n'y a pas de vie chrétienne possible. Tout part de l'intériorité. Un peu, vous savez, comme le bifidus actif, ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est tout à fait spirituel et évangélique comme slogan publicitaire.
Ouais, bien trouvé. Et on pourrait se dire aussi que dans la recherche de la solitude, dans le silence, dans le recueillement, on a toutes ces techniques de développement personnel ou de méditation transcendantale qui nous proposent aussi un peu ça, de faire le vide. Quelle est la différence avec justement cette vie intérieure à laquelle vous appelez ?
Alors justement, on fait pas le vide, mais on fait le plein
de Dieu.
C'est-à-dire qu'on essaye effectivement de dans cette solitude avec Dieu de purifier nos intentions, de révéler aussi à nous-mêmes nos attachements désordonnés pour nous libérer de nous-mêmes et faire la place à Dieu en vérité. Et donc on n'est pas dans le développement personnel parce que le but du développement personnel est très centré sur soi. La conversion chrétienne, c'est autre chose, c'est nous recentrer sur Dieu. Ah, pour mieux nous trouver nous-mêmes, mais sans cette tendance obsessionnelle à la perfection personnelle qu'on peut trouver dans le développement personnel, justement.
Oui, et puis une quête qui finalement épuise et ne mène à rien, puisque finalement on tourne sur soi-même.
Oui. Oui. Il y a une manière de rentrer en soi pour s'attacher à soi. Mais une manière de rentrer en soi pour s'attacher à Dieu et aux autres aussi. C'est la définition même de l'extase chrétienne. Extasis, c'est être hors de soi. Alors, de fait, je rentre en moi-même dans une certaine intériorité, mais le but ultime, c'est de me jeter en Dieu pour l'aimer et d'aimer aussi les autres.
Oui, ça n'exclut pas effectivement des relations interpersonnelles et de porter du fruit finalement dans le monde.
Oui, tout à fait.
Ouais. Vous écrivez, frère Marie-Olivier Guillot, que la pureté de l'âme est une condition pour parvenir à l'intériorité. Vous avez parlé de purifier ses désirs. Comment obtenir cette pureté ?
Eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Dans la tradition chrétienne, ça s'appelle, alors c'est un mot qui n'est pas à la mode, ça s'appelle l'ascèse. C'est cet effort moral poussé par l'Esprit Saint, eh bien, de me détacher de tout ce qui pourrait me détourner de Dieu, de libérer mon cœur de toutes ces entraves qui m'empêchent d'accueillir l'amour de Dieu et puis de le restituer au Seigneur et aux autres. Et donc, ça suppose, pardonnez-moi l'expression, mais de trancher un peu dans l'art. C'est d'accepter un certain combat spirituel et moral pour repousser les frontières du mal dans notre vie et élargir notre cœur aux dimensions de la sainteté de Dieu.
Oui, oui, mais comment justement prendre conscience de ce qui fait obstacle à la relation, à la vie intérieure et à la relation avec Dieu ?
Alors, on en revient toujours à la même recette fondamentale, c'est l'intériorité. C'est-à-dire que Dieu nous révèle à nous-mêmes. Si je prends le temps ne serait-ce que 5 minutes par jour, hein, de pratiquer ce qu'on appelle la prière d'oraison. Donc, je me pose 5 minutes. Et je me repose en Dieu. J'essaye d'ouvrir un espace intérieur de grande disponibilité à Dieu, justement, qui va me parler et me dire, voilà ce que j'attends de toi. Voilà, sur telle ou telle chose, bien, tu pourrais faire un petit effort là. Ce que je voudrais, moi, c'est telle chose depuis tant d'années que tu me refuses. C'est pas forcément une grande chose, hein. Mais comme disait Saint Jean de la Croix, on peut être bloqué par une chaîne des maillons de 15 cm de diamètre ou un petit fil. Mais ce petit fil suffit à ralentir ma marche vers Dieu.
Oui, donc effectivement, c'est dans la prière qu'on peut distinguer ça. Vous nommez trois dangers, vous avez repéré trois dangers pour la vie spirituelle, la superficialité, la fuite et la cécité spirituelle. J'aimerais bien que peut-être à travers des exemples, vous nous expliquiez ces dangers, et ça nous permettrait de comprendre encore plus ce qu'est la vie intérieure et qu'est-ce qui nous empêche finalement d'y entrer pleinement.
Oui, alors j'ai effectivement, à la suite du Père Vessière, hein, qui parle dans ce premier texte de solitude, de silence et de recueillement, j'essaie de mettre en lumière les grands obstacles, les grands dangers de la vie spirituelle que vous venez de citer, hein. Et d'abord la superficialité qui fait qu'on vit un peu à la surface des choses et de soi-même. Et là, je prends l'exemple concret, et le grand danger, intériorité, c'est le téléphone portable. Pas la peine de faire un dessin, mais on passe son temps à scroller, hein, à faire défiler les images sur les réseaux sociaux. C'est l'exemple même de ce vice qui tue la vie intérieure et qui fait que je me perds, hein, dans la Google des enfers, pour citer un livre qui ciblait déjà ça. En fuyant finalement celui qui m'attend à l'intérieur, dans les profondeurs de mon être. Bon, je cite cet exemple, mais on pourrait citer bien d'autres exemples où finalement on a du mal, comme les sous-mariniers, si je puis dire, à descendre en profondeur pour trouver Dieu. Et, oui, et c'est une position facile entre surface et profondeur. Mais il n'y a pas d'intériorité s'il n'y a pas une descente justement dans les profondeurs de son cœur.
Ouais, et si on arrête de se préoccuper de ce qui paraît et pas de ce qui est vraiment.
Tout à fait, tout à fait. Ouais. C'est un peu le combat permanent, hein, pas plus aujourd'hui qu'hier. On a d'autres outils pour s'évader de son cœur profond, mais le combat est le même. Alors, il y a aussi la cécité ou la fuite qui reviennent un peu au même, mais la cécité, c'est davantage le fait de ne plus voir Dieu qui est présent autour de moi, qui est devant mon nez, en fait. C'est lié aussi à l'habitude du mystère. Pour ceux qui pratiquent régulièrement, on s'habitue à ce miracle, par exemple, de l'Eucharistie. Et on communie un peu par habitude, on prie par habitude. Mais si nous prenions le temps d'une certaine lucidité, de remettre l'Église au centre de mon village et cette présence de Dieu si extraordinaire, en fait. Quand je vais communier, qu'est-ce que je fais? Je pose un geste rituel où je vais à la rencontre de Jésus Eucharistie. Et c'est cette idée de se redire la réalité d'une présence de Dieu au cœur de notre vie.
Oui. Je vous en prie.
Non, j'allais enchaîner sur la fuite.
Mais on va parler de la fuite et puis on reviendra sur l'Eucharistie parce que c'est effectivement un point que vous développez qui est très important dans votre ouvrage. Donc, troisième danger après la superficialité et la cécité spirituelle, c'est la fuite.
Oui, alors la fuite, ça c'est plus lié peut-être à notre état de pécheur. C'est-à-dire que, confusément, on sent bien qu'on n'est pas à la hauteur et on a peur de Dieu au fond et son jugement. Alors, comme le fils prodigue, on fuit et on va se perdre là pour le coup dans des compensations et on retarde justement ce moment du retour à Dieu. Alors, faut-il peut-être passer par cette étape-là? De fait, l'histoire du fils prodigue, oui, c'est notre histoire à nous tous, hein. Expérimenter cette solitude du pécheur avec lui-même, plein de culpabilité, qui fuit son Seigneur, pour, au bout du compte, quand on a touché le fond, un autre fond, celui de sa pauvreté, rebondir vers la richesse du Christ ressuscité, qui m'aime, me sauve et me pardonne.
Ouais.
Et donc là, dans la fuite, il y a cette idée d'une vérité sur soi assumée. Oui, c'est vrai, je suis un pécheur, mais je suis un pécheur infiniment aimé et je reviens au Père. Sans arrêt, je reviens au Père. Et là, un exemple concret, mais combien de fois nous retardons l'heure fatidique de la confession? Justement, on fuit, on se fuit soi-même parce qu'on se sent pécheur et on fuit malheureusement la miséricorde du Seigneur. Pas bon, pas bon.
Pas bon.
Très mauvais. La vraie intériorité, justement, c'est intégrer, c'est vrai, ses pauvretés, ses faiblesses, mais dans la lumière de l'amour de Dieu qui nous attend.
Ouais, et qui ne demande que de déverser sa miséricorde en nos âmes.
Mmh.
On revient sur l'Eucharistie, frère Marie-Olivier Guillou, puisque vous dites que c'est le premier lieu de retrouvaille de Dieu avec nous. En fait, qu'est-ce qu'on n'a pas compris?
C'est un grand mystère, quand même, l'Eucharistie.
Oui,
hein.
C'est vrai.
Donc, de fait, on n'aura jamais totalement compris ce qui est caché sous le voile sacramentel du pain, qui est le corps de Jésus, ou du vin, qui est le sang du Seigneur. Mais il est vrai que comme on disait, je crois que c'est un mot de Pierre Dac qui disait la force de l'habitude en réalité est une faiblesse. Pourquoi? Parce que on s'habitue à tout et même aux plus grandes choses dans la vie. On s'habitue à un magnifique paysage parce qu'on vit en permanence en montagne. On s'habitue à des couchers de soleil sur la mer parce qu'on est un marin aguerri, on passe son temps sur la mer. On s'habitue au miracle eucharistique parce que on est pratiquant habituellement, en fait. Et donc, l'idée, c'est de redonner un peu de la saveur aux choses, c'est le cas de le dire, et de retrouver le réalisme de l'Eucharistie. Le curé d'Ars l'expliquait à ses paroissiens, dans sa petite église là à Ars. Il se retournait et désignait avec sa main le tabernacle et il disait, la voix pleine d'émotion, parce qu'il vivait le mystère, lui. C'était pas une âme habituée, une âme en perpétuel émerveillement, le curé d'Ars. Il disait à ses paroissiens, pour les secouer, il est là, il est là, il est là. Le Seigneur est là, comme il était présent au jour de sa vie terrestre à Nazareth entre Joseph et la Vierge. Ah, évidemment, c'est l'épreuve de la foi, parce que c'est la foi qui discerne cette présence. D'où l'important, justement, de revenir sans arrêt en nous rappelant cette présence de Dieu dans la foi, qui est la source et le sommet de la vie chrétienne. Hein. C'est la présence eucharistique du Seigneur au milieu de son Église.
Et vous citez ce conseil de Charles Journet, quand vous communiez, demandez de recevoir le corps du Christ un peu comme la Vierge Marie l'a porté en son sein pendant 9 mois.
Oui, bien sûr. Oui. C'est très beau comme pédagogie eucharistique, parce que comme l'a dit Jean-Paul II, Marie est la femme eucharistique par excellence, une sorte de tabernacle vivant. Elle a porté en son sein cette présence réelle que nous retrouvons aujourd'hui comme un prolongement de ce mystère de l'incarnation dans nos tabernacles de pierre en nos églises. Et c'est vrai que Marie est pure et infiniment sainte. Elle a réussi le programme de la conversion. Bon, elle a été aidée sans doute plus que nous par cette grâce de l'Immaculée, mais elle a été fidèle à cette grâce. Et Marie peut nous aider au quotidien, et notamment dans ce sommet de notre vie qui est la communion eucharistique. J'accueille le Seigneur dans mon être, et presque dans ma chair, pourrait-on dire. Eh bien, avec Marie, cette communion portera plus de fruits, en quelque sorte. Mmh. Elle nous aidera à entrer dans ce mystère.
Donc, très concrètement, par exemple, si on va à la messe un peu par habitude et parce qu'on se pose plus de questions et qu'on s'est laissé habituer, comme vous disiez, par ce sacrement de l'Eucharistie, invoquer la Vierge Marie, la prier avant la messe ou sur le chemin, et puis lui demander de renforcer notre présence à la présence de Dieu dans l'Eucharistie.
Oui, c'est une très bonne idée. Mais ça s'inscrit aussi peut-être dans le fait d'arriver à l'heure à la messe, oui. De prendre du temps avant la messe pour se poser. Justement, cultiver l'intériorité. C'est là où Dieu nous parle, en fait. C'est là où il rend plus vivant notre désir de le recevoir et de lui faire la place qu'il lui mérite. Et puis après aussi, souvent, malheureusement, on peut regretter qu'il n'y ait plus de silence pour l'action de grâce après la communion. Vous voyez, souvent dans les monastères, qui sont des lieux d'intériorité magnifiques, qui nous rappelle l'importance du silence et du recueillement, eh bien, après la communion, il y a souvent 5 minutes d'action de grâce. On se pose 5 minutes. On vient de communier, on a chanté le chant de communion. On laisse décanter cette présence en nous, on en prend conscience, on s'unit d'amour avec Jésus en nous, et on prend son temps, en fait. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a, cette habitude de communier rapidement et de passer à autre chose, en fait. C'est la génération un peu zapping. On a communié et on mange son poulet frites. C'est très bien, le poulet frites, c'est très bon. Et c'est la joie familiale du dimanche après-midi.
Oui, mais il y a quand même une transition. Il y a quand même.
Mais il y a une transition, quoi. Ouais. Mais soignons les transitions, si j'ose dire.
Oui. Alors justement, puisque nous parlons de transition, je vous propose de marquer une pause musicale, frère Marie-Olivier Guillou. Nous allons écouter Transformation, chantée par le groupe Célébration, la chorale Célébration, et nous nous retrouvons pour continuer de découvrir votre ouvrage, Le cœur plein de Dieu.
Isabelle Duché.
Le cœur plein de Dieu, c'est l'ouvrage que nous continuons de découvrir avec son auteur, le frère Marie-Olivier Guillou, dominicain. Juste avant cette pause musicale, frère Marie-Olivier Guillou, vous nous parliez de l'Eucharistie, et du fait qu'il ne faut pas s'y habituer, qu'il faut aussi invoquer la Vierge Marie pour qu'elle nous aide à accueillir Jésus comme elle a porté Jésus dans son sein pendant 9 mois. Vous avez aussi cité, au tout début de cette émission, le père Vessière, notamment en disant que notre conversion est l'œuvre du saint amour, avec 2 majuscules. La conversion consiste donc à se laisser aimer par Dieu, si je vous suis bien, à le laisser faire. Mais finalement, qu'est-ce que fait Dieu et qu'est-ce que nous devons faire?
Excellente question.
Ah, difficile.
Parce qu'il faut bien se garder de penser que c'est ou bien Dieu qui agit ou nous qui agissons. C'est les deux, hein, mon capitaine. Ma conversion, c'est 100% l'œuvre du Seigneur, qui a l'initiative toujours, c'est vrai, mais c'est aussi 100% aussi ma réponse et ma coopération à cette œuvre de Dieu. Et donc, si vous voulez, s'il fallait justement chiffrer les choses, on ferait 100% et 100% d'un côté et de l'autre, parce que l'œuvre de Dieu traverse entièrement la mienne et lui donne justement sa constance. Et en même temps, il me donne de répondre à cet amour. C'est lui qui convertit, il opère, je coopère. Au fond, je consens à cette œuvre, pour le dire un peu de manière imagée, je consens à cette œuvre que Dieu fait en moi, et c'est l'œuvre de l'amour.
Et le père Vessière, toujours lui, écrivait « Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que Dieu fait en nous ».
Ah oui, c'est admirable comme citation. J'aime beaucoup parce que elle résume vraiment, je pense, le cœur de la conversion chrétienne. Vous voyez, on est toujours obsédé par soi-même. On regarde son nombril en permanence. Le père Vessière, qui était détaché de tout et de lui-même et attaché à Dieu, ne regardait à la fin de sa vie plus que Jésus, en fait. Et c'est vrai, c'est une immense grâce d'être détaché de soi-même, de ne plus être préoccupé de soi-même, mais d'être tout entier aspiré par Dieu. Et au service de nos frères, je ne peux pas ne pas citer un de mes frères dominicains ici à Marseille, le père Jean-Marie Mérigou, qui est décédé maintenant il y a quelques années, et qui à la fin de sa vie, à l'heure de l'agonie, il mourait d'un cancer généralisé chez nous, et il disait oh, « c'est le moment d'aimer, c'est le moment d'aimer ». Et il s'intéressait même à ma vie apostolique, en me demandant « mais comment vont tes marins à Toulon ?» alors qu'il était au seuil de l'éternité. Mais il était tout donné aux autres et tout entier tourné vers le Seigneur. C'était très beau de voir qu'un frère, à la fin de sa vie, avait réussi cette conversion en se laissant faire par la grâce du Seigneur.
Oui, c'est effectivement un très bel exemple. Dans votre livre aussi, vous posez cette question qui est assez dérangeante, je crois, mais bénéfique. Vous dites « Nous sommes aimés de Dieu, quand le croirons-nous vraiment ?»
Oui, c'est un livre d'ailleurs, un livre dont c'est le thème, hein, « Croire à l'amour de Dieu » du père Delvé, que beaucoup de nos éditeurs connaissent, qu'ils ont dû lire.
Ah oui, un petit
mais tout commence par là en fait. Hein. La conversion, c'est pas d'abord de faire des choses, c'est d'accueillir un amour qui nous précède et qui nous aime. De ce point de vue, vous voyez, cet épisode dans l'Évangile est symptomatique. Quand Jésus commence à se faire connaître par les miracles, quand les gens commencent à être touchés par son enseignement, la question qu'il pose, plein de bonne volonté, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Qu'est-ce qu'on doit faire pour Dieu? Réponse du Christ, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi, en celui qu'il a envoyé, donc en moi, Jésus parle. Donc Jésus renverse entièrement la perspective, il dit pas, il ne s'agit pas de faire des choses pour Dieu, mais de laisser Dieu faire son œuvre en toi. D'accueillir voilà, cet amour qui suppose vraiment un décentrement de soi-même et une sorte de renoncement à l'activisme, en fait. Dieu a toujours la priorité et il s'agit vraiment de laisser toute son importance justement à cette œuvre de Dieu qu'il fait en moi et qui suppose, comme Marie, un cœur ouvert et disponible. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je t'accueille, Seigneur, tout entièrement dans ma vie. Fais ton œuvre. Je suis disponible et disposé. à me prêter à ton jeu, en fait, au jeu de la sainteté qui passe par l'accueil de cet amour et qui appelle ensuite, évidemment, amour pour amour. Mais ça, c'est
Une
toujours
réponse.
en second. Voyez.
Et quand vous dites qu'on se laisse toucher par Dieu, en fait, ça passe par des toutes petites choses. Parfois, on attend des grandes révélations et un peu comme certains grands saints, on pense à Thérèse d'Avila que vous avez cité tout à l'heure, mais c'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte que c'est vraiment dans d'infinis détails.
Oui, et en conformité un peu avec son état de vie. Et quand on est marié femme, se laisser toucher par l'amour de son mari ou de sa femme, l'accueillir. Parfois, il faut plus d'humilité à être aimé avec ses pauvretés, ses faiblesses, qu'à aimer d'avoir l'initiative de l'amour, en fait. Et donc, il y a cette espèce de cohérence dans la vie chrétienne qui fait que Dieu se trouve partout, qu'il me rejoint à tout instant et dans mon état de vie à travers mes devoirs d'État. Et je pense que le couple est une belle image justement de ça. Qu'est-ce qui m'a aimé en premier? Est-ce moi? Est-ce lui? Peut-être que c'était simultané. Mais au quotidien, je dois réapprendre à accueillir l'amour de mon conjoint. Pour y répondre, mais je dois accueillir cet amour. Sans cesse m'ouvrir à cet amour. Et en l'occurrence, il n'est pas sans imperfection. Et donc, il y a sans doute un enjeu plus grand. Mais c'est comme un lointain reflet, justement, de la conversion chrétienne dans mon rapport avec Dieu, en fait.
Oui, ça, effectivement, le parallèle est intéressant. Et alors, si je vous suis bien, frère Marie-Olivier Guillot, aimer Dieu, c'est donc la clé de la conversion. Le Père Vercier disait « aimer, c'est se livrer à l'amour ». On se souvient aussi de Sainte Thérèse qui disait « aimer, c'est vivre d'amour ». Finalement, est-ce que on pourrait pas craindre qu'aimer Dieu, au point de faire plus qu'un, nous ferait disparaître? Comment on peut comprendre en fait cet équilibre entre l'union à Dieu et puis la nécessaire individualité propre à chacun?
Eh bien, en comprenant que la communion n'est pas une confusion. Il y a deux manières d'aimer et d'être aimé.
Il y a deux façons d'aimer et d'être aimé. Enfin, deux façons d'aimer.
Oui, voilà. Donc il y a deux façons d'aimer et d'être aimé, soit un amour de communion, soit un amour de confusion. C'est-à-dire que l'amour fusionnel, on sait à quoi ça conduit. Oh là là, mon mari est formidable, ou ma femme est extraordinaire, et on vit par procuration à travers un autre. Et l'autre nous absorbe en fait en lui. Et puis il y a la communion, qui respecte justement... les personnes dans leur singularité. Et l'amour de communion est un amour qui lie deux personnes sans que l'une ou l'autre ne disparaisse. Et c'est le modèle est en Dieu, précisément, dans cette relation entre les trois personnes divines. Et le modèle est dans notre relation aussi avec le Seigneur, qui nous aime infiniment, qui ne nous absorbe pas en lui, qui nous laisse à nous-mêmes pour que, en l'aimant, de tout notre cœur, nous nous trouvions nous-mêmes. Parce que Dieu n'est pas comme un autre, vous voyez. Dans les relations humaines, on est sur un pied d'égalité. Mais j'aime pas Dieu comme un autre, parce que, comme on dit, il est le tout autre. Et donc, en me laissant aimer par lui, eh bien, c'est moi-même que je trouve au fond du compte. Je suis révélé à moi-même, justement, dans cette relation d'amour avec Dieu.
Oui. Je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin. Vous citez dans votre livre Thérèse d'Avila, elle invite à donner à Dieu notre volonté. Alors ça peut faire très peur, mais j'aimerais bien que vous expliquiez de quoi il s'agit.
Ah oui, parce que c'est finalement la finalité de la conversion, de faire qu'un seul cœur et qu'un seul esprit avec le Seigneur. Et lui donner sa volonté, c'est emprunter le chemin de tous les saints et d'abord de la Vierge Marie, qui dit à l'Annonciation qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire, bien Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma volonté. C'est vrai que j'avais des projets, tu les bouleverses, c'est très bien. Je m'abandonne à ton amour, pour reprendre la prière de Charles Foucault, un grand saint de l'abandon et de l'union des volontés à Dieu. Alors, ça peut faire peur parce que, évidemment, on pense la relation à Dieu sur le mode humain. Et un homme à qui on donne sa volonté peut vite en abuser. Parce que, justement, il manque de sainteté. Mais avec Dieu, il en va tout autrement. parce que Dieu sait mieux que moi ce qui est vraiment bon pour moi. Et donc, dans cette relation de confiance où je donne ma vie, ma volonté au Seigneur, j'ai la certitude que c'est le chemin d'un bonheur total et plénier. Alors évidemment, c'est dans la foi, parce que on ne connaît pas toujours la fin de l'histoire. Je cite ce petit proverbe chinois, un proverbe mandarin, où un propriétaire de haras perd subitement son plus bel étalon qui était toute sa richesse. Et on lui dit « Oh là là, mais quel malheureux homme tu es !» Et puis, 3 jours après, l'étalon revient avec un cheptel de juments sauvages, et son succès est refait, et on lui dit « quel heureux homme tu es !» Et puis, la guerre éclate, son fils... qui entre-temps a été blessé en domptant les juments et réformé et ne part pas à la guerre, on lui dit « Quel heureux homme tu es !» Et à chaque fois, cet homme dit, au compliment ou aux compassions, « Quel malheureux homme tu es !»« Quel heureux homme tu es !» Ben, il dit « Qui le sait ? Qui le sait ?» Parce que finalement, on ne sait jamais la fin de l'histoire. Et si Dieu permet dans ma vie une épreuve, attendons la fin de l'histoire, parce que si Dieu tolère un mal dans ma vie, c'est toujours pour un bien. Ça, c'est une vérité fondamentale de l'espérance et de la foi chrétienne.
Oui,
c'est vrai que Dieu ne supprime pas la souffrance, et que en acceptant d'entrer dans sa volonté, parfois, j'accepte certaines frustrations, certaines épreuves, certains défis, mais c'est toujours pour le bien, toujours pour le bien.
Oui, heureusement. Merci de préciser ça. Dans cette union des cœurs, l'union du cœur à Dieu, et dans cette vie intérieure pleine de Dieu, il y a forcément des fruits. Vous disiez que le fait de laisser Dieu agir en nous nous fait mieux nous connaître, nous découvrir et donc aussi nous tourner vers les autres. Qu'est-ce qu'on peut donner comme fruit de cette vie intérieure, de cette conversion?
Ben, c'est les fruits de l'esprit. Ça veut dire c'est la paix profonde du cœur. Quand on est accordé à Dieu et que on a tout donné, on n'a plus rien à perdre en fait. Et quoi qu'il arrive, on reste dans la paix. La joie d'une conscience pure. Et surtout d'une conscience qui se sait infiniment aimée de Dieu. Quand on s'est installé dans cet amour de Dieu, je crois que Dieu m'aime infiniment comme le meilleur des pères. C'est la joie, malgré d'ailleurs les souffrances ou les épreuves. Hein. La vie du chrétien n'est pas une vie béate, c'est pas ce que je dis. Mais au cœur même des épreuves, on le voit d'ailleurs, il y a des chrétiens qui vivent des choses extrêmement lourdes, et pourtant, ils ont une joie qui est incompréhensible et qui touche. C'est aussi donc il y a la paix, il y a la joie, il y a la patience, le fait que on est la miséricorde aussi, qui devient plus facile, plus aisée. On est dans la vie de l'esprit, avec tout son cortège de fruits égrenés par Galates 4:4.
Est-ce qu'on gagne en liberté aussi?
Alors ça, c'est vraiment, je crois que c'est peut-être effectivement le plus beau fruit, un peu le Graal, c'est ce que je dis dans le livre, le Graal de la vie spirituelle, c'est la liberté intérieure. Oui. Le fait d'être content, toujours et partout, parce que, comme disait Bondelat, qui était un abbé de l'abbaye de Solesmes, au début du XXe siècle, on lui posait la question souvent, mais mon père, mon révérend père, mon révérendissime père, comme on disait à l'époque, comment allez-vous? Et il répondait, ça va aussi bien que Dieu veut que ça aille. Et donc ça va bien, puisque tout dépend de la providence de Dieu, et tous nos cheveux sont comptés, et donc il n'y a pas une chose dans ma vie qui m'arrive sans que le Seigneur y soit intéressé, sans qu'il le permette, sans qu'il le veuille, d'une manière ou d'une autre. Donc tout va bien. Et je reste calme et silencieux, un peu comme le petit enfant dans les bras de sa mère.
Oui, en confiance.
Le psaume, en confiance. C'est l'abandon, c'est le terme même de la conversion chrétienne. Quoi qu'il arrive, je suis en paix et libre intérieurement d'accueillir les choses comme elles sont. Le principe de réalité. Voilà. Les choses sont comme ça, le Seigneur le permet, c'est très bien, tout va très bien.
Oui, et effectivement, grâce à ça, on gagne en liberté. J'invite vraiment les auditeurs à plonger dans votre livre, parce qu'évidemment, nous n'en avons effleuré que quelques passages. Donc, je rappelle son titre, Le cœur plein de Dieu, comment retrouver le goût de la conversion personnelle. C'est aux éditions Arthèche. Et je vous remercie beaucoup, frère Marie-Olivier Guillou, de nous en avoir présenter un petit aperçu, et donc je vous dis donc à une prochaine fois, peut-être à l'occasion.
Oui. Avec joie, Isabelle, merci.
Voilà, c'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.